Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Joe. Bienvenue Joe.
Bonjour.
Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Moi, c'est Joe, j'ai 35 ans, je suis un barbu, marié, papa de deux petites poupées. Et je suis un mi-hipster, mi-teufeur sans camion et comédien amateur à mes temps perdus.
Bah, merci pour cette belle présentation. Du coup, merci aussi de ta présence. Et aujourd'hui, donc, on va prendre le temps de découvrir ton métier. Donc, je vais te poser the question. Tu es prêt ? Et tu fais quoi dans la vie ?
Alors moi, je suis éducateur spécialisé donc en pédopsychiatrie.
D'accord.
Voilà, alors après, un éducateur spécialisé peut travailler dans plein de domaines différents, que ce soit avec des enfants, des adultes, dans le secteur de l'handicap, plutôt précarité, donc hommes, femmes à la rue. On peut être aussi toxicomanie. On a un champ qui est assez large. Mais moi, en tout cas, je travaille en pédopsychiatrie. Donc
en pédopsychiatrie, à l'hôpital. Donc, super intéressant déjà cette entrée en matière. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier, si tu devais nous donner une sorte de première définition ?
Alors, un éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui va essayer d'être au plus près des besoins de personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc moi, personnellement, en pédopsychiatrie, je suis plutôt avec des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles du développement, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que j'essaye que la société puisse accepter leurs troubles, que eux puissent justement rentrer dans cette société et que ces troubles, en fait, soient le moins envahissants possible pour eux.
Voilà. D'accord, donc les aider à aller vers de l'autonomie, c'est ça ?
Oui,
pour essayer
notamment
de leur permettre une certaine insertion dans la société.
Et surtout, c'est pouvoir gérer leurs angoisses, parce que c'est des enfants en général qui ont beaucoup d'angoisses et qui vont le manifester du coup de manière différente en fait.
D'accord. Et donc on reviendra plus tard sur le détail de tout ça, mais quel cursus tu as suivi finalement pour arriver là et en existe-t-il différent ?
Alors, moi, personnellement, j'ai su assez rapidement que je voulais faire ce métier-là. Donc, je me suis un peu battu avec l'éducation nationale pour leur faire comprendre que je ne voulais pas faire un cursus classique, parce que moi, je voulais faire un BEP sanitaire et social. J'ai mis 2 ans à pouvoir partir en BEP sanitaire et social, parce qu'on m'a fait redoubler ma troisième, partir en seconde générale. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. En fait, pourquoi le BEP sanitaire social ? C'est parce que je voulais déjà commencer à avoir de l'expérience professionnelle avec les stages. Parce que je savais que pour pouvoir passer le concours d'éducateur spécialisé, il fallait déjà un peu connaître le public, se connaître un peu plus soi-même. Et donc, du coup, j'ai fait mon BEP sanitaire social. Je suis parti en bac, donc ST2S. Je ne sais pas si ça existe toujours, il me semble que oui.
Ouais,
j'étais la toute première session ST2S avant, c'était le bac SMS. Et pour les anciens, c'était le bac F8. Et en fait, toutes ces études, moi, je les ai faites en maison familiale et rurale, qui me permettaient d'être en alternance. Dans cette idée de pouvoir avoir de l'expérience. Et ma dernière année de bac, en fait, je l'ai fait en apprentissage. Dans un IME, donc un IME c'est un institut médico-éducatif, c'est avec des enfants plutôt secteur handicap, j'étais plutôt côté autisme à ce moment-là. Et ensuite j'ai enchaîné avec le concours éducateur, et pareil j'ai fait éducateur, ce qu'on appelait nous à l'époque cours d'emploi. Donc j'étais en poste en fait d'éducateur, en apprentissage, et après j'ai eu mon diplôme. Et...
Donc finalement tu as su assez jeune que tu allais suivre ces voies-là.
Ouais, au début, je m'étais dit je ferais peut-être AMP, donc aide médico-psychologique, quand j'étais en BEP. Mais très rapidement, il était clair que c'était plutôt éducateur spécialisé. Après, donc, à l'époque, il fallait préparer un concours d'éducateur. Aujourd'hui, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le truc qu'on a à la fin pour choisir nos études, là, c'est un nom, là, je ne me souviens plus comment. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concours. D'éducateur. Moi, ce que je trouve clairement dramatique, parce que pour vous dire, moi, quand je suis rentré en formation, j'avais 20 ans, même 21 ans, il me semble. J'étais le plus jeune de ma promo. Mmh. Aujourd'hui, c'est plutôt la moyenne d'âge des éducateurs en formation. Et moi, je pense que ça ne va pas parce qu'il faut une certaine expérience un peu de la vie ou du public pour pouvoir accueillir...
Une certaine maîtrise de soi, ouais. Pour pouvoir gérer
les
autres.
Il faut se connaître un minimum quand même. Quoi.
Ok. Donc intéressant comme parcours. Et justement, maintenant que tu connais bien ce métier, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences clés, on va dire les compétences nécessaires et les qualités, on va dire, requises pour se plaire dans ce métier et être un bon éducateur spécialisé ?
Non, déjà, la première des choses, je pense que c'est la patience. Si tu n'as pas de patience dans ce métier-là, tu es clairement mort. De la bienveillance, plutôt quand même l'amour des autres. Hein. Si tu n'aimes pas les gens, ça va être compliqué d'aimer les gens qui sont particuliers. Donc voilà. Après, moi, j'avoue que j'ai plus de patience et plus d'amour pour les gens particuliers que les gens normaux, entre guillemets. Donc voilà. Enfin, on se le dit souvent avec des collègues, hein, par exemple, qu'on aurait peut-être plus de mal à travailler avec des enfants, entre guillemets, classiques, qu'avec les enfants avec lesquels on travaille. Parce que c'est aussi ça, la beauté de notre métier. C'est ces enfants qui ont des réactions qui sont différentes, et qui vont aller chercher des choses en toi que personne ne vient chercher à la base, quoi. Donc voilà, et je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est d'avoir ce que j'appellerais un cadre interne qui est sain, quoi. Parce que si tu commences à être, à vouloir travailler des choses personnelles dans ton métier, ça peut arriver. Moi, je trouve que ça va pas, quoi. C'est... Tu peux pas faire ce métier pour faire ta propre thérapie, quoi.
Ouais, il faut être déjà armé soi-même.
Voilà. Et c'est vrai que souvent, tu entends en formation, si tu n'as rien à travailler en toi, tu ne fais pas ce métier-là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Personnellement, je n'avais rien à travailler en moi particulièrement. J'avais juste envie d'avoir une utilité, en fait, dans la société, dans la vie. Et voilà, et je crois que j'y arrive plutôt bien, il me semble, depuis quasi 20 ans. Donc...
Moi, j'aurais dit aussi, j'imaginais en tout cas qu'il fallait aussi avoir un bon sens de l'écoute et de la communication, parce que le relationnel, créer du lien, je pense que ça fait vraiment partie aussi du cœur du métier.
Ah oui, bah complètement. Encore plus en pédopsychiatrie. Enfin, pour moi, oui, c'est tellement logique, c'est vrai que j'y ai même pas pensé, mais en effet, c'est savoir écouter l'autre. Mmh. Et vraiment, c'est vraiment de l'écoute active, quoi. Et des fois, l'écoute, c'est pas forcément devoir répondre quelque chose à l'enfant. C'est juste d'être, des fois à 3 mètres de lui et de l'observer dans sa relation avec les autres. Et ça, c'est écouter ses besoins aussi, en fait. C'est tout un ensemble, en fait.
C'est tout un ensemble. Est-ce que vous avez besoin aussi juste de faire appel à des qualités différentes, type la créativité pour animer des ateliers ou des choses comme ça?
Bon, après, chaque éducateur a un peu son domaine de prédilection, je dirais. Voilà, moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais plutôt autour de l'animal. C'est quelque chose qui me plaît pas mal. On a un peu tous notre truc, mais oui, sur le principe, il faut quand même être un minimum créatif. Ouais.
Et donc là, on a parlé plutôt des forces pour exercer ce métier, mais est-ce que tu pourrais me dire quels sont finalement les enjeux ou les défis majeurs rencontrés dans ce travail au quotidien ?
Alors moi, le premier enjeu personnellement, c'est résister aux attaques, c'est-à-dire celles des enfants, du coup, dans leur comportement, dans tout ça. Enfin, c'est un métier, on se fait insulter régulièrement, des choses comme ça, on peut se faire cracher dessus, enfin, c'est loin d'être le quotidien de tous les jours. Après, ça va dépendre des endroits. Moi, j'ai travaillé dans des endroits où c'était la crise un peu tous les jours. Personnellement, enfin, en plus, je pense que je suis un bon éducateur entre guillemets de crise. J'ai fait quasi que ça. Là, ça fait quelques années où c'est un peu plus tranquille où je suis. Donc, il faut résister à ça. Et il faut entendre les messages différemment de ce qu'il est donné à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pas toi qui es attaqué, en fait, c'est ta fonction, c'est plein d'autres choses, mais c'est pas toi en tant que Jonathan, parce que toi, quand justement l'enfant il va réussir à pouvoir se calmer ou des choses comme ça, là tu vois tout de suite que ça y est, il a en face de lui la personne par elle-même, et en général il est reconnaissant quand tu as géré cette crise-là. Donc ça, c'est assez difficile. Et moi, je trouve que ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, c'est résister aux attaques de l'institution qui nous demande de soigner des enfants en 6 mois, dans l'air du temps, qu'il faut tout de suite. Sauf qu'un enfant, en fait, on ne le soigne pas on ne le soigne pas en 3 mois. Quoi. Et ça, c'est de plus en plus difficile et c'est ce qui me ferait partir de mon métier. En fait, c'est pas les enfants, c'est vraiment plus l'à côté. Quoi.
Le manque d'accompagnement, finalement, des institutions.
Ouais, même pire. Quoi. C'est-à-dire qu'avant, en fait... y avait des choses, c'était logique, quoi. Des temps de réunion, en fait, on se posait pas la question. Aujourd'hui, on va venir attaquer ça. On va nous demander d'expliquer ce qu'on fait. Y a beaucoup moins de confiance et tout ça. En fait, ça attaque et ça grignote la motivation, quoi.
La confiance aussi.
Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment dramatique. Et il y a de plus en plus de bons éducateurs, de bons infirmiers, parce que moi, je travaille vraiment en binôme avec des infirmiers qui partent parce qu'ils en ont marre et c'est des bons. Et ceux qui restent, ils vont être moins bons, entre guillemets, et c'est vraiment dommage, quoi. On use les gens et c'est l'institution plus qui use les gens au final que les enfants, quoi. Et ça va pas.
En effet. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de défis à remporter. Et en parlant de défis, c'est vrai que dans l'actualité, de manière générale, on parle beaucoup d'inclusion à différents niveaux de la société. Par exemple, en mettant en avant et en lumière le handicap ou la diversité des genres. J'imagine que dans ces métiers-là, qui sont des métiers prenants aussi, ça doit être une thématique qui fait aussi partie de vos combats, non ?
L'inclusion, moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, il faut y mettre les moyens. C'est-à-dire que si tu mets des éducateurs dans les endroits où, justement, on pense inclure les gens, c'est super. Mais si tu laisses les professionnels qui sont sur place, qui n'ont aucune connaissance de l'handicap, aucune connaissance de la maladie psychique, se débrouiller, ça ne va pas. Donc, ça crée des problèmes et ça crée de la maltraitance pour tout le monde, en fait. Ça soit dans une classe, par exemple. Si vous avez 3 enfants qui ont des gros troubles, ces enfants-là, par l'angoisse, par le manque d'un environnement adapté, vont faire des crises assez importantes, vont pouvoir attaquer les autres enfants. Donc du coup, les autres enfants, eux, c'est maltraitant pour eux et c'est maltraitant pour les enfants, moi, dont je m'occupe, qui ont un milieu qui n'est pas adapté. Donc voilà. Après, c'est aussi des décisions politiques pour moi qui sont du fait d'un manque très important de structures adaptées. Quand vous voyez qu'on a entre 5 et 6 ans d'attente à Lyon pour un IME, moi je trouve ça inadmissible en fait.
IME ?
IME et Institut Médico-Éducatif, donc qui s'occupe de gamins handicapés. Mmh. Et nous, par exemple, dans un CMP, donc Centre Médico-Psychologique, pour arriver, moi, dans mon service à moi, qui est un CATTP, donc c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, vous êtes obligé de passer par un CMP. Le CMP a 1 an et demi d'attente. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est pas moi qui vais aller chercher dans la rue les enfants qu'on a besoin. Et donc, les temps d'attente, les places, il n'y en a clairement pas assez. Donc après, on va vous parler d'inclusion, tout ça. Mais pour moi, il y a les deux, quoi. Il y a le fait qu'il manque de place. Et après, bien entendu, je suis complètement pour que n'importe quelle personne ait sa place dans la société de manière optimale. Mais il faut pouvoir l'accompagner correctement.
Donc je te propose de faire une petite pause musicale. Et donc je vous laisse découvrir le son que Joe a choisi aujourd'hui de nous faire découvrir.
J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds, je préfère prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le solilès. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias? On est tombé sur la tête pour de la monnaie, les gosses deviennent dérangés. Où est passée l'allégresse dans les graisses de la danse de se déhancher? C'est pas que je devienne vieux.
Non.
Pas génie comme Aladdin, garde les yeux ouverts à la bœuf. Je suis content quand il pleut, ça énerve les gens heureux. Tout est question de point de vue, vu que l'argent change les gens. J'en déduis que ce qui tue, le nourrit consciemment. Mensonge d'une vie à 400%, sans tu crèves la gueule ouverte au soleil comme un goéland. Lent, le poids des jours, le poids du temps, névrosé et tralala qui va nous ressaisir. Quand va-t-on arrêter de penser que l'issue n'est qu'une question de plaisir? J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, je vomis du cœur, je suis écœuré. J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds. J'ai préféré prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le solides. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias?
J'ai volé plus haut. Plus haut que tu le pensais de moi. Oui, j'ai volé un peu comme tu l'espérais de moi.
Calade. Et tu fais quoi dans la vie? Suite de l'émission Et tu fais quoi dans la vie, en compagnie de Joe, qui nous parle de son métier donc d'éducateur spécialisé. Donc on va poursuivre notre discussion où je t'ai senti en effet très inspirée, mais aussi très passionnée. Donc qu'est-ce qui te passionne justement le plus dans ce métier-là?
De toute façon, ce métier, si t'es pas passionné, a priori, tu vas pas tenir très longtemps quand même. Donc voilà, et puis... Pour moi, l'éducateur, il a besoin d'être celui qui défend un peu, qui... Et donc on est un peu toujours énervé, les éducateurs, c'est comme ça, on se plaint beaucoup, mais en même temps, c'est pour les bonnes choses. Donc voilà. Du coup, redis-moi ta question.
On va dire, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier?
Ce qui me passionne le plus, c'est d'avoir un réel impact sur la vie future des enfants dont je m'occupe et de leur entourage. Voilà, c'est pouvoir faire que un enfant arrive avec des gros troubles, et qu'il est très angoissé, et qui, quand je lui dis au revoir à la fin du soin. Il soit beaucoup plus tranquille en lui, qu'il ait une connaissance de lui plus importante, que les liens avec les autres soient plus tranquilles. Et ce qui me plaît, c'est de me dire que chaque semaine, en fait, chaque enfant dont je m'occupe va avoir un temps vraiment particulier pour lui, un temps d'écoute. Et en fait, on en rêverait tous, je crois, d'avoir... Un lieu un peu mis comme ça sous coton, qui est un peu suspendu dans le temps, qui nous est dédié qu'à nous, quoi. Voilà, globalement, c'est plutôt ça. Et puis, c'est intellectuellement, je trouve, ça m'intéresse pas mal de voir cette évolution et de réfléchir au maximum de comment faire pour que cet enfant il aille mieux.
Et justement, est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ça ressemble chez toi une journée type ou une semaine type?
Alors, je dirais plus sur la semaine type. Dans une semaine type, en fait, je vais alterner entre des prises en charge donc en individuel ou groupal. En fait, ça va dépendre. En réunion, on va vraiment essayer de savoir... quel sera le mieux pour tel enfant, si c'est du groupe, si c'est de l'individuel. Il y a des enfants, des fois, ils sont tellement, c'est tellement fort leur trouble dans le relationnel qu'il vaut mieux passer par l'individuel au départ. Donc voilà, mes groupes, en fait, on va soit faire des groupes avec un thème particulier, je ne sais pas, la cuisine. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un groupe autour du jeu de rôle. Voilà. et où ça va être des temps un peu plus longs groupal, mais avec ce qu'on appelle de la médiation qui est plutôt libre. Donc là, c'est les enfants qui vont venir, qui vont nous dire bah, j'ai envie de faire ci, ça, ça, et nous on voit comment on peut faire. Et donc parallèlement à ça, on va avoir des temps de reprise clinique. Donc chaque en fait, groupe va avoir un temps d'une heure environ par semaine, toutes les deux semaines, pardon, qui lui est dédié, où là, on va décortiquer vraiment tout ce qu'on a fait, comment l'enfant s'est comporté, tout ça. Et là, ça va vraiment nous aider à pouvoir être au plus près du besoin de l'enfant dans les moments d'après. Et puis... nous, en fait, on marche beaucoup avec ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire, le transfert, c'est ce que toi, tu vas me donner dans la relation. Je vais récupérer en moi, en fait. Et ça va me créer une réaction. Et ça, en fait, c'est à décortiquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à l'enfant, tout ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille, quoi. Et c'est aussi comme ça qu'on se décontamine, entre guillemets, de la violence, des angoisses des enfants. Et on va avoir aussi une partie de consultation familiale. Et donc là, c'est vraiment pouvoir aider les familles à comprendre leur enfant, à eux pouvoir parler de ce qu'ils vivent. Et en général, contrairement à un psychologue, par exemple, on va avoir... c'est pas qu'on va avoir plus de poids, mais les parents, en fait, ce qu'on va leur dire, ils vont l'écouter d'autant plus du fait que nous, on le vit aussi, en fait, par rapport à un psycho qui va les voir chaque semaine dans le bureau. Donc, voilà. Après, moi, mes consultations familiales, je les fais avec un psycho. En fait, on est en binôme, donc une psycho.
Vous êtes des équipes pluridisciplinaires et vous complétez.
Exactement. On ne peut pas travailler autrement qu'en pluridisciplinarité.
Et justement, en tant qu'EduxP, est-ce qu'il y a finalement un outil ou quelque chose qui vous est indispensable au quotidien ?
Bah pour moi, c'est justement ces reprises cliniques que je parlais. C'est ce qui va différencier pour moi en fait, un éducateur d'un animateur, entre guillemets. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a notre formation, il y a notre regard, il y a plein de trucs. Mais globalement, oui, les reprises cliniques, moi, je trouve que c'est vraiment important. On en a plus en pédopsychiatrie, et c'est aussi pour ça que je reste dans ce domaine-là. Parce que pour moi, en fait, c'est un peu comme de l'orfèvrerie, quoi. C'est-à-dire que chaque moment que je passe avec l'enfant, après, moi, je vais le reanalyser et je vais essayer de voir sur quoi je peux essayer de bouger un tout petit quelque chose... Et c'est ce qui fait évoluer l'enfant au fur et à mesure, en fait. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir du recul, c'est ce qui permet de pas tout ramener à la maison, parce que sinon les familles, je pense que ça serait très difficile si on ramenait toute l'angoisse, la violence qu'on vit tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment l'outil le plus important, il me semble.
Et au fil de ces années, est-ce que tu aurais une anecdote ou un moment marquant de ta carrière à nous partager ?
Alors... Par contre, je risque de casser l'ambiance, parce que dans notre métier, c'est quand même des situations vraiment très difficiles. Mais oui, il y a une situation moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un enfant en fait, qui était dans une situation de grande précarité psychique et sociale, comme beaucoup on a d'enfants. Voilà, j'ai beaucoup d'enfants qui ont été maltraités ou qui sont dans des situations vraiment très, très compliquées. Et cet ado, en gros, que j'avais en charge, quand il était petit, il a été élevé vraiment comme un enfant sauvage. En gros, il a été placé assez rapidement. C'était une situation vraiment très, très difficile. J'avais eu en plus son frère, moi, dans un autre lieu où j'avais travaillé avant. Et cet enfant, voilà, en fait, il avait des défenses psychiques qui étaient très importantes. Il était assez violent. Et au fur et à mesure du temps, avec le pédopsie avec lequel je travaillais à cette époque-là, on avait réussi à faire que cette violence avait beaucoup baissé, qu'il avait pu vraiment réfléchir sur ce qu'il vivait, sur tout ça. Et en fait, malgré tous nos soins, quelques mois après ses 18 ans, quand on lui a dit au revoir, quoi, il a été suspecté d'attouchement, il s'est retrouvé en garde à vue et en fait, il s'est suicidé en garde à vue. Et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué dans le sens où je me suis dit que ces défenses, en fait, elles étaient là vraiment vitales, en fait, pour lui. Et que, bah, du coup, on l'a aidé à les enlever, ces défenses, mais du coup, à quel prix derrière, quoi. Donc ça, c'est difficile, parce que on se rend pas compte, mais les gens, en fait, quand... Si je sais pas, dans une dépression, en fait, ils perdent la personne, c'est qu'à ce moment-là, ils en ont besoin et que des fois, on veut aller trop vite, peut-être, et que cet enfant, on le pensait prêt, on pensait tout ça, et en fait, c'était extrêmement difficile, quoi. Et des fois, peut-être qu'il valait mieux qu'il se... il y a certains enfants, ils se débilisent, entre guillemets, souvent, mais parce que la vie est trop dure à côté, et qui on est pour leur enlever ça, en fait. Donc maintenant, je fais vraiment très attention à ça.
D'accord, donc une situation quand même délicate, difficile de ne pas ramener tout à la maison, en effet, et de ne pas réfléchir sur tout ça. Mais malgré tous les aléas de ce beau métier, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont les évolutions de ce beau métier sur les prochaines années, et si tu as un dernier conseil à donner à des gens qui voudraient faire comme toi ?
Alors, l'évolution du métier, moi, elle me fait quand même assez peur par rapport aux décisions politiques d'aujourd'hui. Donc, on verra. Il y a de plus en plus de violence dans la société. Pour moi, mon métier, en fait, c'est le garant du vivre ensemble, en fait. Et on a enlevé beaucoup d'éducateurs dans les quartiers, on enlève beaucoup d'éducateurs de partout. Et ça, moi, ça me fait peur, personnellement. Après... On essaye de le faire évoluer avec des nouvelles techniques, des choses comme ça. Moi, je trouve ça très bien. Mais il faut qu'elle soit couplée aussi avec du travail comme on a aujourd'hui. Voilà. Et par rapport aux futurs éducateurs, moi, pour moi, c'est fais-toi de l'expérience avant de passer le concours. Avant de rentrer dans l'école pour voir si tu as les épaules pour faire ce métier, pour voir si tu n'es pas trop touché par les gens, parce que c'est faut aussi savoir prendre du recul, et ça, c'est pas donné à tout le monde, mine de rien, de pouvoir être une éponge et en même temps y laisser à côté, parce que sinon tu tiens pas dans ce métier. Et j'en connais beaucoup qui prenaient trop à cœur les choses, et à un moment donné tu te casses la figure, c'est pas possible, quoi.
Merci pour ce partage d'expérience en toute transparence, Joe. J'espère que cet échange aura répondu à certaines de vos interrogations et pourra peut-être susciter de nouvelles vocations, car a priori, il y a des besoins dans ce milieu-là. Donc, si vous avez l'envie d'aller vers ces métiers passion, n'hésitez pas. En tout cas, c'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur Radio Calade, et à très vite pour la découverte d'un nouveau métier.
Merci.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie ?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.